Bonjour à tous. Une nouvelle journée de protestation des agriculteurs en France aujourd'hui après la mobilisation nationale du 8 octobre dernier. Nous entendrons les raisons de la colère avec Pascal Colli, représentant FDSEA à Belfort. Dans cette édition, nous irons aussi au Liban où les annonces du Premier ministre n'ont pas réussi à calmer la colère des dizaines de milliers de manifestants qui continuent de réclamer le départ d'une classe politique dont ils dénoncent la corruption. Et puis nous pencherons sur un procès très attendu aux États-Unis aujourd'hui, le procès Exxon, géant de l'énergie, accusé d'avoir trompé les investisseurs en sous-estimant volontairement les risques financiers liés au changement climatique. Les agriculteurs sont appelés à des actions devant les préfectures ce matin par la FNSEA et les jeunes agriculteurs après une première journée d'action nationale le 8 octobre dernier. Ils redoutent notamment les traités de libre-échange comme le CETA, traité entre l'Union européenne et le Canada, et une concurrence qu'ils jugent déloyale. Pascal Colli est président de la FDSEA dans le département de Belfort et il a confié ses craintes au micro de William Gay-Costa.
On nous demande de nous monter en gamme, alors que les prix ne suivent pas. Et parallèlement à ça, l'Europe et la France va signer le traité du Mercosur ou du CETA. Donc c'est des traités qui vont autoriser des importations pays du Sud, d'Amérique du Sud et puis le Canada, avec des normes moindres que les nôtres. Donc voilà, nous on peut pas être concurrentiel par rapport à ça. Donc c'est de ce côté-là, c'est inadmissible. Par rapport au Canada, nous il y a 40 produits qui sont interdits en France, qui sont autorisés au Canada. Et ils vont nous amener de la viande. Essayer de comprendre. La logique de nos responsables politiques. Moi, je ne la comprends pas.
Pascal Colli, au micro de William Gay-Costa de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Hier après-midi, environ 80 agriculteurs du territoire de Belfort ont déjà vidé des bennes de déchets et de pneus devant la préfecture. Alors qu'hier, le ministre de l'Agriculture l'a dit une nouvelle fois, le compte n'y est pas quant à la rémunération des agriculteurs. Didier Guillaume faisait un point après un nouveau bilan de la loi alimentation qui devait justement rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs. Et en parlant d'industriels, justement, la Confédération Paysanne, syndicat agricole, avait assigné aujourd'hui en justice le patron de Lactalis, le géant mondial du lait, pour non-publication des comptes de la société. Il se trouve que Lactalis a justement publié ses comptes il y a 2 semaines, ce que le syndicat agricole considère comme une victoire pour plus de transparence économique, Manuel Refez.
Lactalis devait déposer ses comptes annuels avant le 31 août cette année. Finalement, ce sera début octobre. Peu importe, c'est fait, notre demande a abouti, se félicite aujourd'hui Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
Ça fait des années qu'on réclame cette transparence, ils avaient toujours l'habitude de ne pas publier leurs comptes, d'être le plus opaque possible ou de n'en publier qu'une partie. Donc là, voilà, on a l'impression que ça avance un petit peu et aujourd'hui, c'est une victoire pour nous.
La Confédération va désormais se pencher sur ses comptes avec l'expertise de cabinets comptables et avec cette question de fond, l'empire Lactalis se construit-il au détriment de la rémunération des producteurs de lait ?
Pour nous, c'est inacceptable que les paysannes et les paysans continuent à être payés en dessous de leur coût de production et que des groupes comme Lactalis et d'autres continuent à accaparer la valeur et à avoir des bénéfices et des chiffres d'affaires en augmentation. C'était le débat des États généraux, comment arriver à mieux partager la valeur ajoutée produite. On n'a répondu à rien et le gouvernement n'a répondu à rien avec la loi Egalim. Aujourd'hui, le chantier est encore totalement ouvert et ça ne peut pas durer longtemps.
La Confédération Paysanne qui juge par ailleurs regrettable que le gouvernement et les pouvoirs publics n'aient pas mis la pression eux-mêmes pour obliger Lactalis à publier ses comptes.
En Bolivie, le tribunal constitutionnel électoral départemental a été mis en feu cette nuit dans la capitale constitutionnelle. Les affrontements avec la police ont éclaté dans la capitale La Paz ainsi qu'à Potosi. Des scènes de violence qui ont éclaté dans plusieurs régions après la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le principal adversaire du président bolivien sortant, Evo Morales, ne reconnaît pas les derniers résultats provisoires qui donnent finalement le chef de l'État sortant vainqueur dès le premier tour. Alors qu'au sud de la Bolivie au Chili voisin, la fronde sociale continue dans un climat toujours très tendu. On atteint maintenant le nombre de 11 morts après les émeutes et les manifestations qui se poursuivent depuis 4 jours après le début de la contestation. Les Libanais, toujours en colère aussi, 6 jours après le début des manifestations, le gouvernement a pourtant adopté une série de réformes. Hier, annoncées hier après-midi par le Premier ministre Saad Hariri pour calmer la colère, la privatisation du secteur des télécoms, diminution de moitié des salaires des ministres et des députés ou encore un moratoire sur les impôts. Mais cela n'a pas l'air de calmer la rue, Chloé Doma.
Pas de nouveaux impôts, pas de nouvelles taxes pour remplir les caisses vides de l'État, mais une réduction de 50% des salaires des ministres et députés, une contribution de 3,3 milliards de dollars des banques et une privatisation du secteur des télécoms. L'annonce n'a pas convaincu les manifestants. Des promesses, ils en ont déjà entendu. Ils ne croient plus à cette classe politique héritée de la guerre civile. Ce qu'ils veulent, c'est la fin du système. Hier soir, ils étaient encore des dizaines de milliers sur la place centrale de Beyrouth et ailleurs dans le pays. Toute la nuit, de nombreux appels à poursuivre la contestation ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce matin, les banques ainsi que certaines écoles et universités sont restées fermées. Beaucoup de boutiques ont gardé le rideau tiré. Mais le Premier ministre a donné l'ordre à l'armée de réouvrir les routes bloquées depuis 5 jours par les barrages des manifestants. De nouveaux rassemblements sont prévus dans la capitale cet après-midi, mais difficile de savoir à ce stade quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Le climat pourrait se tendre, d'autant plus que dans la soirée, des milices des partis chiites, Hamal et Hezbollah, ont défilé au centre-ville pour intimider les protestataires.
Chloé Doma, Beyrouth pour France Culture. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou jette l'éponge. Il l'a annoncé hier soir, son échec à former un gouvernement. Il laisse donc le champ libre à son rival, le centriste Benny Gantz. L'ancien chef de l'armée disposera alors de 28 jours pour tenter de parvenir à former un gouvernement dans cette crise qui perdure depuis le 17 septembre dernier. À l'issue des élections législatives, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz avaient récolté respectivement 55 et 54 élus. Aux États-Unis, c'est l'une des entreprises les plus riches de la planète, ExxonMobil, géant de l'énergie, qui est sur le banc des accusés aujourd'hui. Le procès doit s'ouvrir. Exxon est accusé d'avoir trompé les investisseurs en sous-estimant volontairement les risques financiers liés au changement climatique. Et si la justice ne fixe pas le montant de possibles dommages et intérêts, elle demande à ce que l'entreprise rectifie ses comptes et rembourse les sommes indûment gagnées. À New York, Louis Glory.
La plainte avait été déposée en octobre 2018 par le procureur général de New York. Derrière lui, des millions d'investisseurs américains qui estiment avoir été lésés par les pratiques trompeuses d'ExxonMobil. Le mastodonte du gaz et du pétrole, en effet, aurait menti en assurant avoir intégré dans ses comptes l'augmentation attendue du coût des émissions de gaz à effet de serre. Une fraude qui porterait sur des milliards de dollars sans plus de précision. Le groupe, par ailleurs, aurait aussi assuré que ses activités seraient peu affecté en cas de réduction par les autorités de la production et de la consommation d'énergie pour limiter le réchauffement climatique. Cette plainte enfin met en cause l'ex-PDG de l'entreprise Rex Tillerson, secrétaire d'État du gouvernement Trump jusqu'en mars 2018. Il savait, dit le procureur de New York, que les affirmations de la société étaient trompeuses. Mais la compagnie se défend. Elle évoque de fausses accusations, dénonce une enquête politiquement motivée résultant des efforts d'organisation anti énergie fossile. ExxonMobil se dit en tout cas confiante quant à l'issue du procès. L'été dernier, le gendarme américain de la Bourse avait classé sans suite une enquête fleuve consacrée aux pratiques comptables de ce super géant américain de l'énergie.
Un procès évité en revanche dans la crise des opiacés hier. 4 sociétés pharmaceutiques ont trouvé un accord à l'amiable leur permettant donc d'éviter ce procès fédéral inédit. 400 000 personnes sont mortes depuis le début des années 90 dans cette crise sanitaire sans précédent aux États-Unis, un accord qui se chiffre à 215 millions de dollars. Emmanuel Macron a désigné l'ancien président Nicolas Sarkozy pour être l'émissaire de la France aujourd'hui à Tokyo, alors que le Japon célèbre aujourd'hui l'avènement de son nouvel empereur, Naruhito, qui a succédé à son père Akito le 1er mai dernier. C'est un récit à Tokyo de Yann Rousseau.
Tout a commencé tôt ce matin par une cérémonie à huis clos dans des temples du palais en plein centre de Tokyo. Naruhito, le nouvel empereur, est venu annoncer à l'âme de ses ancêtres et à la déesse du soleil qu'il allait monter sur le trône dans la journée. Ensuite, il a enfilé un autre habit traditionnel pour la cérémonie de proclamation qui vient juste de commencer dans la salle des pins du palais. C'est une série de rituels qui remonte au 7e siècle et que les conservateurs refusent absolument de moderniser. Il existe d'ailleurs un décalage de plus en plus grand entre le couple impérial, qui a fait de brillantes études à l'étranger, qui parle plusieurs langues, et ses codes de la maison impériale, qui est tenu par des hauts fonctionnaires traditionnalistes. S'ils n'ont pas le droit de faire de la politique, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako veulent quand même projeter une image de modernité et surtout d'égalité au sein de leur couple, ce qui est assez révolutionnaire, et cela risque de relancer très vite dans le pays le débat sur le système de succession. Pour l'instant, il est exclusivement réservé aux hommes, or le couple impérial n'a eu qu'une fille, et donc il n'y a plus qu'un jeune garçon pour assurer la survie de la lignée. C'est le seul neveu de l'empereur, un ado de 13 ans qui est déjà soumis à une énorme pression. La population se dit favorable à 80% réticents à l'idée de laisser une femme monter sur le trône, mais une petite minorité conservatrice, et notamment le premier ministre Shinzo Abe, reste vent debout contre cette idée folle et va tout faire pour empêcher cette réforme.